je vous propose qu'on commence du coup cet atelier, le premier jour de l'université d'été. On est dans le cadre du cycle pandémie avec un atelier aujourd'hui sur l'hôpital et le système de santé à l'épreuve de l'épidémie du Covid-19. Donc, nous avons en invité Yasmina Kétal, cofondatrice du collectif Interurgence et infirmière à Paris, qui va nous faire une présentation pour le premier atelier de ce cycle. J'y vais sans transition, parce que là, je te donne la parole. Charge à moi de présenter un sujet qui est quand même assez vaste, donc vous pardonnerez, c'est quand même, ça ne va pas être très exhaustif, c'est assez difficile de pouvoir synthétiser la situation. Je pense que ça va être très hospitalo-centré, désolé, et aussi très Île-de-France, parce que forcément c'est un truc que je connais le plus. Pour attaquer un peu sur la question, l'idée c'était de commencer aussi un petit peu sur avant le Covid, juste avant le Covid. On va revenir à très longtemps, mais on va se repencher sur dans quel contexte est arrivé le Covid, parce que je pense que c'est assez important. Au printemps 2019, naît un mouvement hospitalier qui part à la base de paramédicaux des urgences. C'était exclusivement des paramédicaux, hein. L'idée c'était que la parole soit uniquement... que les questions d'enjeu de pouvoir, notamment médical, du pouvoir médical, soient un peu sorties de tout ça. L'idée, c'était de parler de ses propres conditions de travail par lui-même. Et donc, émerge un collectif qui s'appelle le collectif Interurgence. Initialement, des hôpitaux très parisiens qui se mobilisent sur des questions de sécurité au sein de leurs hôpitaux. Pourquoi de sécurité? Parce qu'en fait, les premières revendications du collectif, c'était vraiment... plus d'agressions aux urgences, ça tournait essentiellement autour de ça. Le mouvement il s'est construit, les gens ils ont évolué, ils ont aussi réfléchi à pourquoi est-ce qu'il y avait de la violence, quel était le contexte, qu'est-ce qui se passait en fait dans nos services. Et donc, émergé trois grandes revendications, c'est-à-dire des effectifs supplémentaires, des lits supplémentaires et une augmentation de salaire de 300 euros pour justement à la fois pour augmenter, mais aussi parce qu'on se retrouvait dans une situation d'attractivité, de manque d'attractivité assez importante, et qu'on avait des collègues qui partaient les uns après les autres. Donc c'était déjà un système qui était assez en crise. Je ne vais pas vous refaire la politique d'économie sur l'hôpital, je ne suis pas la déplacée pour ça, c'est pas la vérité. Mais globalement, au fur et à mesure des années, on se retrouve à avoir un système qui ressemble de plus en plus à un gruyère et on demande année après année de faire plus en plus d'économies, notamment par le biais de l'ONDAM, L'ONDAM, c'est nos capacités à dépenser chaque année. Et en gros, on se rend compte assez rapidement que les dépenses qu'on engage tous les ans ne sont pas à la hauteur de ce qu'on nous alloue et ce qu'on nous autorise à dépenser tous les ans. Donc, à coût de plusieurs milliards d'euros d'économies par année. On se retrouve dans un système en crise. En printemps, ce sur quoi on alerte, c'est les conditions d'accueil déplorables des patients, les pertes de chance, mais aussi la maltraitance institutionnelle vis-à-vis des personnels de l'hôpital. Et en fait, ce que ça a permis, c'est qu'au fond de nous-mêmes, chacun d'entre nous, on travaille dans des situations qui étaient inacceptables, et on avait une espèce de culpabilité qui était latente au quotidien, de se dire qu'on n'arrivait pas à faire des soins de qualité. Et en fait, ça a permis aussi de replacer un peu la responsabilité là où elle devait être, et donc la culpabilité là où elle devait être. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'en fait, en vrai, ça nécessiterait un débat en lui-même, ce mouvement-là, par une méthode assez différente, par un fonctionnement assez horizontal, et puis par le biais d'un collectif. Tout d'abord, un collectif très centré sur les urgences, qui va s'élargir progressivement au reste de l'hôpital, qui va s'élargir aux autres professions de l'hôpital, et un peu se percuter aussi au mouvement des retraites. Ça, pareil, c'est un sujet à part entière, puisque en fait, le mouvement hospitalier et l'hôpital en règle générale, c'est pas dans nos gènes l'interprofessionnalité ou même les questions autres que la santé et les soins. Et du coup, ça a été un peu compliqué l'arrivée du mouvement des retraites, parce que même si ça nous concernait pour une partie des gens, c'était pas le sujet. Et ça a été assez complexe à gérer, et aussi parce que les médecins étaient dans le game, et que du coup, il y avait moins d'intérêt, on va dire, à s'élargir. Donc, ce mouvement hospitalier qui s'essouffle un petit peu, durant le mouvement des retraites, qui est en totale dissonance avec le reste de la société, et arrive un peu en février, où on se retrouve à avoir quand même des mobilisations, mais bien moins. Et c'est là qu'arrive le Covid. Là où on ne l'attendait pas. Le Covid, je vais raconter un petit peu la première vague par le biais d'une situation très particulière, parce que moi je travaille dans le 93, qu'à cette époque-là je travaillais dans un service d'urgence, et qu'il y a des disparités énormes sur le vécu et sur comment est-ce qu'on a été impacté en fonction des régions, des hôpitaux et même de nos métiers. Donc ça a montré ce qui restait encore à démontrer, s'il y avait encore des choses à démontrer sur l'incubée hospitalière, le manque de moyens, et qui a exacerbé forcément toutes les problématiques existantes. Ça nous a montré, et ce qui nous a, je pense, le plus choqué en réalité, ça a montré la faiblesse de la logistique supérieure, la logistique d'État. Et ça, je pense qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Parce que, notamment dans nos études, on a appris à gérer les situations sanitaires exceptionnelles, et sur le papier, ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, du coup, on se retrouve face à une situation un peu de sidération, et ça a permis de se rendre compte aussi ce qui existait déjà, que la santé, ça tient uniquement par celles de ceux qui la font, et non pas par une logistique et un système qui permettrait à ceux qui bossent de pouvoir le faire dans des conditions qui soient acceptables. Donc on est tous passés progressivement au plan blanc. Alors vous avez beaucoup entendu parler de ça. Le plan blanc, c'est des réorganisations, notamment de services. Ça donne les pleins pouvoirs aux directeurs d'hôpital pour typiquement annuler les congés, réorganiser les effectifs, réorganiser les horaires. Avec un sentiment un peu mélangé, parce que on sentait bien quand même qu'on n'allait pas pouvoir faire face. Enfin, en tout cas, nous, à Saint-Denis, on savait assez rapidement que ça allait être compliqué. Aussi parce qu'on avait bien compris, vis-à-vis de la maladie en elle-même, que ça allait forcément toucher des gens chez nous, et de manière bien plus violente qu'ailleurs. Je pense qu'on ne se doutait pas non plus à quel point ça risquait d'être violent. Et du coup, nous, à De Lave, par exemple, on est passé de 18 lits de réanimation en règle générale, enfin réanimation ESC, à près de 40. et on a pris en charge près de 250 patients Covid en même temps au plus haut de la crise, donc, ce qui est assez énorme. L'hôpital est devenu Covid intégralement, c'est-à-dire qu'à l'accueil des urgences, par exemple, tous ceux qui venaient pour quelque chose hors cas de Covid ne rentraient pas dans l'hôpital. Donc, et on réorientait un petit peu partout. Et sur les réorganisations de services, par exemple, moi, mon service, il fonctionnait en 7h30. Du jour au lendemain, on nous a dit qu'on allait passer en 10h. Pourquoi? Parce qu'en fait, manque de matériel, des collègues qui tombent malades les uns après les autres, et on se retrouve de moins en moins à pouvoir faire face à la situation. Et donc, un peu le travail qu'on a batté en 7h30 à 12, on l'a effectué à 7, puis à 5, dans des conditions un peu hardcore, où tu as des passages en grande semaine, petite semaine, grande semaine, petite semaine, c'est-à-dire que tu travailles 5 jours, 3 jours, 5 jours, 3 jours, 5 jours, 3 jours. Normalement, dans une organisation en 12 heures, il y a toujours une semaine de pause, et cette semaine de pause n'a pas existé. Et avec le sentiment que ça montait crescendo. Alors moi, j'ai eu un peu de mal à lire au début ce qui se passait aux Antilles, parce que je savais ce que j'allais y trouver. Alors donc, dans des conditions bien plus énormes aux Antilles en ce moment, mais j'ai eu un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que se retrouver à avoir 10 patients intubés, un seul respirateur, se retrouver à ne plus avoir de place, ni même de prise à oxygène en quantité suffisante et à mettre les gens sur des bouteilles. Enfin, vraiment, on a eu un afflux massif auquel on n'était ni équipé, ni préparé, et un peu livré à nous-mêmes. Ce qui a un impact, hein. C'est pour ça que je reprends là-dessus, c'est pas pour. Je pense que l'histoire, vous la connaissez un petit peu, mais mine de rien, dans le cheminement de la situation actuelle, tout ça, ça reste quand même un grand trauma collectif, qui est aussi un trauma pour vous. Hein. Je pense que cette période-là, elle a été. Très spécial pour tout le monde, mais au quotidien, on a dû faire face à des situations où on a senti quand même les murs trembler. Alors, tout le monde dit que l'hôpital a tenu, moi j'en suis pas si sûre, parce qu'en réalité, on a eu des cris très sauvages, on a eu voilà, des prises en charge très sauvages, et même si ça a peut-être un peu tenu, en tout cas les murs ils ont vraiment tremblé. Si ça avait duré 48 heures de plus dans notre hôpital, je pense que là, pour le coup, ça aurait été vraiment problématique. On a eu le coup près, en fait, du confinement, enfin, de l'effet du confinement qui arrivait un petit peu après. Et du coup, les patients ont arrêté de venir d'un coup, au pire moment. Donc ça nous a permis de respirer. Mais c'est pour ça que je pense aussi beaucoup aux Antilles en ce moment, parce que je me demande quand est-ce que va arriver pour stopper tout ça, et je ne sais pas si ils vont réussir à s'en sortir de manière aussi rapide que nous. Et tout ça, ça a forcément eu un impact sur les patients. On a eu des patients assez seuls, très angoissés, des familles qu'on a dû laisser à la porte de l'hôpital. Tout ça, ça a créé un sentiment de stress, de peur. On rajoute à ça la pénurie matérielle, où par exemple, nous, le matin, on allait récupérer notre paquetage. Donc on nous donnait deux masques, deux surblouses, enfin une surblouse, qu'est-ce qu'il y avait dedans, une surchaussure, enfin voilà, c'était vraiment du compte-gouttes, et ça a rendu pénible encore plus la situation, parce que être dépassé par une épidémie, je pense qu'on sait tous à peu près, quand on est professionnel de santé, que ça va arriver en fait. Il y a forcément un moyen, un moment où on ne va pas réussir à gérer, mais de le faire dans des contraintes logistiques aussi importantes, je pense que ça a rendu le travail vraiment pénible, en sachant en même temps qu'on se retrouvait face à un discours qu'on considérait comme mensonge et qui aura un impact maintenant aussi. Ça a été assez pénible à vivre. À la sortie du confinement, en gros, sur le système hospitalier, enfin sur le mouvement hospitalier, il y a eu une manif. Ce qui est assez dommage en réalité, parce que à la sortie du premier confinement, tout le monde disait vous allez gagner. Vous allez forcément gagner, vu ce que vous avez vécu, ça a été visible. Vraiment, ils vont lâcher des trucs pour l'hôpital. Et du coup, je trouve qu'on s'est un peu reposition de laurier, ou en tout cas, on n'a pas poussé et mis la pression suffisante pour pouvoir véritablement obtenir des choses. Alors, dans certains hôpitaux, on était très clair, enfin, moi dans mon hosto, on faisait le tour des services et on disait aux gens, si vous voulez obtenir des trucs, c'est maintenant en fait. Enfin, c'est maintenant qu'il faut sortir, c'est maintenant qu'il faut faire des trucs. Parce que sinon, on va jamais rien réussir à gratter. Et du coup, ben, ça n'a pas été forcément le cas partout. Donc on a fait une manif. À l'issue de cette manif, il y a eu l'histoire de faire des chics, qui n'a pas été, à mon sens, soutenue assez par le mouvement de la santé non plus. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, ça montre pas que, bah, en fait, on peut pas sortir un de tout ça, et que oui, on peut péter un câble et balancer des cailloux. Enfin, on peut pas en même temps dire ce qu'on a vécu, c'est horrible, vraiment, c'est vraiment horrible, et pas accepter que derrière, en fait, il y a une incidence, et que, bah, du coup, les gens craquent. Et donc, du coup, on s'est retrouvés, voilà, dans ce truc-là, un peu... à faire une manif, mais pas vraiment à appeler plus, à pas faire de manif le samedi, enfin, c'était assez délicat, et en même temps, il y avait les annonces du Ségur, et je pense que bah, le mouvement syndical pensait arriver au Ségur dans les meilleures conditions possibles, et donc du coup, qu'ils allaient finir par lâcher, et lâcher en masse. Bon, vous êtes au courant, hein.
Non.
Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont vraiment pas lâché. Et donc voilà, arrive le Ségur, et bon, juste avant le Ségur, on a bien senti hein, qu'il n'y avait pas de signe positif. La première annonce de Macron, c'était des médailles. C'est la toute première annonce, hein, quand même. Il commence à réécrire l'histoire, à dire qu'il n'y avait pas de pénurie. Voilà, nous, on n'est pas invités. On est invités à la première réunion. Donc, le collectif intervention, on n'est pas invités, invité à la première réunion, et puis après, on nous dit oui, mais vous êtes trop sectoriel, franchement. Bon, oui, vous êtes un peu à l'origine du truc, mais bon, bon, vous allez voir, vous allez gagner, et tout. Bon, bref, c'est un détail, hein. Mais quand même. Et donc, bon, les premières conclusions du Ségur se font connaître assez rapidement. Alors oui, hein, 183 euros, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup dans la société à l'heure actuelle. Mais on a vite compris que ça n'allait pas avoir d'impact parce qu'en fait, s'il y avait bien trois revendications, c'était bien pour quelque chose. C'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts non plus à continuer à travailler dans ce genre de situation et à vivre ce qu'ils vivent, donc juste 183 euros en fait. Parce que ce qui en est ressorti, c'est on vous augmente, et ce qu'on en a compris, on vous augmente, mais on ne change rien. Et ça, je pense que c'est pas à mésestimer. Parce que c'est le coche qui a été loupé, en fait. Et au moment où tout le monde attendait, dans les hostos notamment, à ce que, ben, enfin, on se dise, ben, voilà, un système de santé performant, ça évite que les gens meurent. Et en fait, ce serait bien qu'on arrête de maltraiter les gens qui y bossent. Parce que là, on a tiré la corde jusqu'à un point auquel on ne s'attendait pas à vivre un jour. Et ben, en fait, rien du tout. Et ça, ça a eu un impact assez important parce que du coup, il n'y avait plus d'espoir. Et du coup, on est sorti de la stratégie collective de pouvoir améliorer les choses en se disant, bah, franchement, s'ils ne lâchent pas sur une pénurie mondiale qui a impacté à ce point-là la vie de tout le monde, ils ne lâcheront jamais. Donc... On est rentré dans des stratégies individuelles de ce qui peut et de comment est-ce que je vais réussir à me barrer ou à faire en sorte que ma journée se passe. Donc, est passé l'été, est arrivé au début septembre la deuxième vague avec bah, des indicateurs qui commençaient à vraiment être craignos. On commençait à se dire que voilà, ça allait recommencer et qu'on allait se retrouver encore dans une situation compliquée en sachant qu'il y avait des collègues qui avaient déjà commencé à réussir à partir entre eux, pendant l'été. Et donc là, c'est enchaîné plein de mauvaises décisions, hein, on va se rappeler, hein, pendant des mois, le couvre-feu, tout ça, machin. Et nous, à ce moment-là, franchement, au sein des hôpitaux, il y a plein d'endroits où on commençait à dire en fait faut confiner. Il faut confiner maintenant en fait parce que faut mettre les gens à l'abri. Nous on voit ce que c'est, on sait ce que c'est, et on sait aussi qui en meurt, comment on en meurt, et c'est tout le temps les mêmes personnes qui vont finir par en être impactées, donc que ce soit sur le Covid ou le non-Covid. Donc là il faut mettre les gens à l'abri. Et là, il y a eu un moment un peu compliqué, parce que notamment les gens, alors je mets des grosses guillemets, hein, les gens de gauche, qui commençaient à dire, mais en fait, il ne faut pas confiner, il faut ouvrir plus de libraires. Alors ça, ça a été très très difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que d'une, ça nous donne encore une injonction à devoir faire encore et toujours, et se substituer encore et toujours aux mauvaises décisions. Et en plus de ça, on ne crée pas des libraires. Je ne sais pas si là-dessus on a été très clair. On ne crée pas de libraires. On transforme les services existants. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez. Alors les locaux, ça va à peu près. Mais par contre, le personnel, on n'en a pas assez. Donc quand on dit on crée des libraires, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on ferme les services. On récupère le personnel qui n'est pas forcément formé en plus, compétent, qui n'a pas forcément l'habitude de prendre en charge ces patients-là. Et on les met dans des services qui ne sont pas adaptés aussi au passage pour faire ça. Ça peut être des blocs opératoires, ça peut être... moi, j'ai fait, en troisième bac, j'ai fait l'USC. C'est un peu en dessous de la réa. C'est dans un service, il y a des chambres sont minuscules, c'est un enfer, il fait chaud, il n'y a pas de fenêtre, c'est juste l'horreur. Il n'y a pas de matériel, enfin voilà, tu cours toute la journée pour essayer de faire en sorte que tu aies juste ce qu'il faut pour taper. Et en plus, bah, moi je suis infirmière d'urgence, je ne suis pas infirmière de réa. Et ça a véritablement un impact en fait, parce que vous êtes moins bien soigné en réalité. Et ça, c'est un peu un truc qui existe tout le temps à l'hôpital, c'est-à-dire que, et de plus en plus, c'est qu'on veut des noms sur des planètes. Voilà, on ne veut pas fermer, on veut des noms sur des planètes. La compétence, on s'en fout. Et là, en ce moment, la compétence, on s'en fout. On veut juste que sur le planning, sur cette telle plage, il y ait un nom. Peu importe si la personne elle sait vraiment bien faire les choses, peu importe si elle va morfler, parce que bah, en fait, on gère quand même des situations et des vies humaines, donc en réalité, c'est impactant aussi hein, de faire de la merde face à des gens qui ont besoin quand même de soins. Et progressivement, en fait, on a cette injonction-là à faire du dégradé, alors que c'est pas ce que vous voulez en réalité, et à tenir ce qui n'est pas tenable en fait. Et donc ça a été assez difficile à vivre, parce qu'on s'est rendu compte progressivement que bah, vraiment deuxième, troisième vague, on a fait vraiment des fonds de tiroir à reprendre. Enfin moi je vous laisse en addicto maintenant, et donc je suis retournée sur la troisième, en plus à ma demande, franchement qui est l'idée. Moi je me suis fait l'idée. Et du coup, à faire du travail de merde, hein. faut se dire la vérité. Et assez assez intéressant, c'est que pendant des années, quand on demandait des postes, parce que les effectifs de base n'étaient pas suffisants en fait, pour faire tourner un service, c'est-à-dire qu'un effectif de base qui serait suffisant pour faire tourner un service, c'est l'été, on peut réussir à faire tourner un planning sans avoir à faire appel à des vacataires ou des intérimaires. Et bien toute l'année, on nous disait oui, ben, voilà, cet été, on vous mettra des intérimaires, enfin, on vous mettra des vacataires, parce qu'on n'a pas trop d'intérimaires, on vous mettra des vacataires, on vous mettra des vacataires. Et d'arriver la deuxième, troisième vague, la vaccination, et là, on se rend compte qu'en fait, ben, les vacataires, ils choisissent leur taf. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller se faire chier à aller travailler dans un service d'urgence, ou aller travailler en gériatrie, ou aller à l'EHPAD, quand pour un très bon salaire, tu peux aller faire de la vaccination toute la journée, tu peux aller avoir des horaires assez réduites, dans des conditions de travail qui sont un peu plus acceptables. Et en fait, ça pourrait être drôle si ce n'était pas terrible, mais du coup, le truc sur lequel tenait un peu cette logique de flux tendu en nous disant « mais non, vous inquiétez pas, vous allez avoir des renforts », et bien en fait, les renforts, ils choisissent. À un moment donné, et ils se retournent contre eux. Et là, pour la troisième vague notamment, ils nous disaient, enfin la direction hospitalière, ils disaient, mais on n'arrive pas à trouver des gens, on n'arrive pas à trouver des vacataires. Bah ouais, en fait. Enfin, à un moment donné, oui. Et c'est en ça que ce qu'on disait avant était plus pertinent que vos réponses, en fait. Parce que C'est comme pour le privé, en fait. On dit oui, c'est bien privé, tout ça. Mais en réalité, quand il faut ouvrir des lits de réanimation à la volée, et notamment pendant la deuxième vague et la troisième, en fait, il faut savoir que pour l'ARS Île-de-France, par exemple, comment ça se passe à l'ouverture des lits? Après la première vague, on s'est rendu compte que il y avait eu des hôpitaux qui avaient énormément ouvert de lits, d'autres moins, aussi parce qu'il y en avait qui avaient accueilli, qui accueillaient beaucoup de patients, typiquement nous, et d'autres moins. Et donc il y avait une disparité sur la région, sur l'accueil. Et en fait, qu'est-ce qui a été décidé? C'est de se dire, bah, sur toute la région, on va créer des paliers, et en fait, à chaque palier qu'on va détrancher, vous aurez un objectif de lit de réanimation public, privé. On se rend compte assez rapidement que dans le privé, ça ouvre moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, c'est des USC, donc c'est un peu moins que de l'AREA, qu'on fait du poste chirurgical, donc c'est pas des services de réanimation qui coûtent très cher à l'année à entretenir, et des équipes qui coûtent très cher, et donc du coup, c'est moins adaptable. Et on se rend compte que, bah, en fait, quand on met de l'investissement, là, on peut derrière modifier, réguler, ouvrir des lits supplémentaires. Alors que la réanimation ou les soins critiques du privé ne vont pas avoir cette souplesse-là. Souvent, en plus, vont travailler avec des gens du public qui vont venir faire des vacations chez eux, venir à l'année. Et donc, du coup, on se rend compte que tout ce qui était censé être bien à l'hôpital, donc, le retour à la vacation, le privé, enfin voilà, tout ce qu'on glorifie dans le système de santé, bah, au final, ce n'est pas ce qui a été le plus déterminant dans nos capacités à réagir rapidement. Je ne sais plus ce que je disais avant, mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça a entraîné cette deuxième, troisième vague? Moins de souplesse. Moins de souplesse, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils se sont fait avoir sur la première. Il y a eu un impact quand même du fait qu'il n'y ait pas de modification. Et donc, du coup, bah, à la fois un désintérêt du métier, c'est-à-dire que bah, maintenant, on fait sa journée. Parce qu'en première vague, les gens se sont donnés. Hein. Franchement, en première vague, les gens se sont donnés. Hein. Nous, on n'a pas, il y a eu des cris, mais on n'a pas rechigné. C'est-à-dire qu'on nous a dit du jour au lendemain, tu bosses. À la deuxième et la troisième vague, ça a été bien plus compliqué quand même. Parce que les gens se sont sentis trahis, usés, lassés. Et donc, du coup, ça a été plus difficile pour les directions hospitalières de faire un peu ce qu'on veut de nous. Et ça, je trouve ça intéressant parce que dans notre milieu, c'est quelque chose de très intériorisé, de toujours répondre à la demande et de pallier systématiquement. Et ce qu'on voit maintenant, et on le voit, et j'en parlerai après sur la vaccination, c'est qu'il y a un cap qui se franchit, mais il y a un cap mental aussi, enfin psychologique qui se franchit. C'est-à-dire qu'il y a de la désobéissance en soi, en fait, par refus de rajouter des journées supplémentaires, par arrêt maladie, parce que l'arrêt maladie, c'est difficile. Hein, il y a plein de gens qui ne se sont jamais arrêtés, qui n'ont jamais pensé s'arrêter, et qui là bah, aussi disent que ça ne tient plus. Quoi. Et donc au sortir de la deuxième et troisième vague, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des luttes sectorielles. Nous, dans notre hosto, je crois qu'à 2 semaines d'intervalle, on a eu le labo qui s'est mis en grève, la pharmacie qui s'est mis en grève, les sages-femmes qui se sont mis en grève, la réanimation qui s'est mise en grève, les uns à la suite des autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que pour se battre pour l'hôpital public ou l'hôpital ou la santé en règle générale, il faut y croire. Et qu'en réalité, il y a beaucoup de monde qui y croit. Et qu'en fait, l'idée, c'était de se dire, bah, on va essayer d'améliorer notre quotidien à nous, quoi, sur notre service. Ce qui est louable, hein. Enfin, moi, là-dessus, je n'ai pas d'avis, hein. Mais ça montre bien quelque chose, en fait. Ça montre que on n'a plus la force en fait, de se battre pour santé, le système de santé en lui-même. Et que du coup, bah, y a du repli, forcément, sur les services. Ça n'a pas beaucoup marché. Franchement, on n'a pas obtenu grand-chose. On verra ce que ça donne, mais voilà, il y a eu cette étape-là où à la fin de la troisième vague, à peu près, tout le monde a décidé de péter sa gueule. Ça nous amène à la situation actuelle. Alors là, progressivement, la mer s'installe et on se retrouve à avoir des fermetures de services d'urgence pendant l'été. Alors il y a quand même, je crois qu'il y avait l'Humanité qui avait essayé de faire une carte un peu des endroits où ça ferme la nuit, ça ferme le jour, ça ferme de telle date à telle date. Bon, ils n'ont même pas réussi à faire un truc complet tellement en fait ça change toutes les semaines. C'est assez préoccupant parce que franchement c'est un peu du jamais vu. J'ai l'impression de dire, je sais pas si c'est du jamais vu, c'est du jamais vu, mais là c'est un peu du jamais vu. On a la dernière situation qui est la situation d'Aulnay, où je crois qu'il y a 80% de l'équipe paramédicale qui s'est retrouvée en arrêt maladie en même temps. Là ils ont fait des choses, un poste d'aide-soignante, des bed-blockers, genre de choses. Et en fait, voilà, on se retrouve à avoir des gens qui progressivement partent. Alors c'est compliqué partir de l'hôpital, hein. C'est pas si simple. Et parce que tout le monde attendait un peu, alors il y a un départ massif. En fait, c'est impossible d'avoir un départ massif. Pourquoi ? Parce que au-delà du plan blanc, alors le plan blanc c'est mort. Hein. Le plan blanc c'est la direction des sites de tout, tu ne peux rien faire. Si la direction n'a pas décidé. Déjà, en dehors du plan blanc, il y a ce qu'on appelle la raison de service. La raison de service, c'est tu veux partir, tu veux être muté dans un autre hôpital, dans un autre service, ou tu veux demander une disponibilité, ce genre de choses. Eh bien, on va te dire, bon, bah, vous n'êtes pas assez. Tant pis, hein, vous n'êtes pas assez. Et donc, il faut bien comprendre quand même, il ne faut pas mettre le service en difficulté, donc vous n'allez pas partir tout de suite, vous allez partir dans deux. 3. Je suis gentil quand je dis 2-3 mois. Non, dans 3, 4, 5, 6, 7 mois. Il y a des gens qui patientent près d'une année avant de pouvoir partir. Et en plus, avec un discours hyper culpabilisateur, en disant mais vous allez mettre en difficulté l'équipe, vous comprenez bien, on n'arrive pas à recruter, la situation est compliquée. Bah oui, la situation est compliquée. Enfin, on vous dit depuis combien de temps en fait. Et on se retrouve, moi je suis au sein de. Au syndicat de l'hosto, et on se retrouve dans une situation assez ouf où d'un côté on dit à la direction faut que vous embauchiez des gens, faut qu'il y ait des effectifs supplémentaires et laisser partir telle collègue parce qu'en fait elle n'en peut plus et qu'à un moment donné, voilà, même sur les disponibilités, ce qu'on appelle les disponibilités de droit, ils arrivent à nous faire chier sur le départ des collègues en fait. Donc les départs massifs, on ne peut pas en avoir d'un coup. Mais en revanche, progressivement, on perd des gens et surtout, on n'en récupère pas. Ou alors, on en récupère, il reste quelques mois et ils repartent. Il y en a qui acceptent, enfin, notamment pour les infirmières, hein, moi chez les aides-soignantes, qui décident de rester en CDD, parce qu'en fait, le CDD, tu peux partir, en fait. Tu n'es pas bloqué. Même la démission, en fait, la démission, elle est quasiment impossible, parce que la démission, il faut que l'hôpital l'accepte, et lui, ne pas l'accepter. Donc, mine de rien, ça s'est creusé entre les arrêts, les départs. On se rend bien compte qu'on n'arrive pas à gérer l'été. On ne sait pas vraiment comment on va gérer la rentrée. Est arrivé pendant l'été un autre point important, hein, qui est la vaccination obligatoire des soignants. Alors, tout de suite, je suis pour la vaccination à 100%. Et j'encourage tout le monde à le faire et je pense que c'est un moyen qui va nous permettre aussi de protéger tout le monde et de réussir à sortir de tout ça. En revanche, j'étais contre la vaccination obligatoire des soignants dans ce contexte-là. Parce que dans le fond, je ne suis pas contre la vaccination obligatoire. Je pense qu'effectivement, bon, que la société puisse tenir et qu'on puisse se protéger les uns les autres, il y a peut-être besoin des vaccins obligatoires. En revanche, on avait bien senti la fracture qu'il y avait, on avait bien senti la défiance et tout ce que je vous racontais juste avant, c'est-à-dire que les gens n'ont pas confiance, les gens sont fatigués, ils se sentent déjà corvéables à la merci, alors ils disent que leur corps c'est la dernière chose sur laquelle l'hôpital n'a pas un impact, parce que quand même ça a même eu un impact sur leur vie personnelle. Enfin, voilà. Des situations difficiles, des divorces, des machins, ça, tout ça, en fait, tout ce que tu vis au quotidien, ça a forcément un impact sur ta vie. Et l'envie de dire non, pour certains, qui est là. Alors, c'est pas la bonne manière de dire non. Moi, j'aurais préféré que ce soit une autre manière, mais en même temps, je le fais. Et donc du coup, une fracture supplémentaire, ça s'est bien clashé dans les services. Ça a été difficile à vivre pour les gens. Il y a des gens qui se sont vaccinés un peu contre leur gré. Et je pense que forcément, ça a un impact derrière et qu'on va avoir du mal à s'en remettre. Elle n'est pas encore faite, hein, l'obligation vaccinale. On va voir aussi combien de personnes ça concerne et si c'est vraiment possible. Et donc tout ça, forcément, ça a un peu tout déroulé. On paye un peu les conséquences du mensonge. Donc ça a pris une sacrée angoisse. Je peux vous dire, les dernières semaines ont été assez sympathiques. Et ça montre à la fois le mouvement précédent, mais aussi tout ce qu'on a vécu et ce qu'on vit là, un peu la faiblesse du mouvement syndical, notamment à réussir à produire un discours qui soit à la fois critique, mais aussi qui prenne en compte la réalité et aussi qui soit audible pour les gens. Et ça là-dessus, à la fois, c'est pas pour rien que le seul mouvement qui ait vraiment une ampleur soit sorti d'autre chose que des syndicats, et que là on se retrouve dans une situation où en fait les collègues de cette manif du mouvement en ce moment, c'est les manifs réactionnaires. Donc ça, c'est un peu dur, franchement, et ça pose beaucoup de questions sur l'avenir. C'est un peu ma conclusion, hein. C'est qu'il n'y a pas de conclusion, on ne sait pas. Moi, comme vous, on ne sait pas ce que va devenir le système hospitalier dans les prochains mois. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans les prochains mois. J'avais dit, probablement l'hôpital s'effondre. Et en fait, non, il y a une longue agonie depuis des mois et des mois et des mois. Franchement, j'aurais préféré que ça s'effondre d'un coup, parce que c'est un peu raide. Moi, de toute façon, là, je suis ouverte à toutes vos questions. Je vous l'ai dit, hein, c'est un sujet un peu long et un peu complexe. Et si vous voulez aborder telle ou telle partie, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a Pauline qui va intervenir un petit peu. Voilà, c'est ma conclusion. On ne sait pas, on verra. Non, mais juste quelques mots, je ne vais pas faire très loin, je pense que c'est important qu'on ait le débat. C'est vrai que tout ça n'est pas très réjouissant, mais c'est la réalité du terrain, je pense que c'est important qu'on ait tous et tout en tête. Voilà. Je pense que ce que tu disais, et je vais revenir rapidement dessus, c'est très important, c'est que en fait, l'hôpital n'a pas tenu. Voilà. Ce qu'on nous a raconté, ce qu'on nous a seriné en permanence, c'est bon, on a eu chaud, mais on a tenu. En fait, c'est pas vrai. C'était pas vrai lors de la première vague. Ça l'est encore moins aujourd'hui, notamment aux Antilles, quand vous voyez quand vous avez plus de 50 ans, ou alors si vous avez le malheur d'avoir une comorbidité, en fait, on ne vous prend plus en réanimation. La situation, c'est celle-là. Et de fait, les patients, évidemment, ont été triés parce que depuis des années et des années, on alertait sur la situation de l'hôpital public, parce que tu l'as rapidement évoqué, mais des mobilisations, il y en a quand même eu un certain nombre, avec clairement SOS, soignants en détresse, mon hôpital va craquer, l'hôpital coule, quand en 15 ans, vous fermez deux tiers des services d'urgence, des milliers de lits, que vous fermez tous les hôpitaux de proximité, que au niveau de la médecine générale, évidemment, ça se ramifie l'offre de soins. Forcément, en fait, ce sur quoi on alertait, malheureusement, ça s'est produit et ça n'a pas tenu. Combien de dizaines de milliers de personnes vont mourir d'autre chose que du Covid? Parce que c'est en dizaines de milliers, voire même en centaines de milliers, en fait. On ne sait pas et probablement on ne saura jamais exactement parce qu'elles n'ont pas pu être prises en charge à cause du Covid et du fait que les hôpitaux étaient saturés. Donc non, l'hôpital n'a pas tenu, non, le système de santé français n'a pas brillé plus que d'autres. Et ce qui est assez terrible, c'est effectivement ce constat qui est que rien n'a changé. Ça fait un an et demi Mais non seulement rien n'a changé, mais on continue de détruire l'hôpital. Alors au début, on peut entendre éventuellement qu'effectivement, en claquant des doigts, on ne va pas trouver des milliers d'infirmières, ouvrir des dizaines d'hôpitaux. Mais ça fait un an et demi. En fait, ça fait un an et demi. De plus, on est en train de se rendre compte, alors c'est pas moi la spécialiste, mais c'est que ça va durer. Il est évident qu'il l'aurait fallu et qu'il faut encore, c'est ce qu'on revendique, un plan d'urgence en termes de formation, de recrutement et de création d'a minima tout ce qui a été détruit pendant des années. Et le problème, c'est que ce qu'on craignait est en train de se produire. Pareil, tu l'as abordé. Alors, ce n'est pas forcément des fuites en masse parce que c'est difficile de partir de l'hôpital, mais c'est une pénurie catastrophique de personnel hospitalier. Enfin, pour l'anecdote, je ne sais pas si elle est là, mais une autre camarade de Toulouse qui est soignante à la clinique Pasteur, la direction, il y a quelques semaines, ils ont tous reçu un petit message. Si vous avez des amis qui sont aides-soignants ou infirmières, envoyez leur CV, si jamais la personne est recrutée, vous toucherez une prime de 300 euros. Mais on en est là.
On aurait bien aimé le recevoir.
Ouais.
Mais si elle est recrutée et qu'elle passe la période d'essai, quoi, faut pas déconner. Hein. Et puis c'est valable toute fois, c'est un 20-10, ça marche pas à quoi. Mais, non, mais on en est là, et ça va pas aller en s'améliorant. Voilà, les gens ne veulent plus travailler dans ces conditions. Nous, la responsabilité un peu qu'on a, en termes de, en tant que militants politiques, syndicaux, c'est de, alors je le dis depuis des années, mais ça marche toujours pas, et on va finir par y arriver, à recréer cet esprit collectif, ce collectif qui là a encore pris un sérieux coup au moral. Là, c'est l'individualisme, qui prime parce que les gens les collègues veulent sauver leur peau et on est effectivement dans une certaine impasse à ce niveau-là. Il y avait eu une grosse mobilisation, tu en parlais, le 16 juin 2020, après la première vague, mais qui malheureusement n'a abouti que sur le Ségur. Alors, petite parenthèse sur la question du Ségur, parce que c'est une grosse arnaque. Les revendications principales concernant les créations de postes, les créations de lits n'ont effectivement pas abouti, alors que c'était central. Il faut savoir que les mobilisations chez les collègues ne tournent pas centralement sur la question des salaires. Elles tournent sur la question des conditions de travail et de pouvoir bien soigner. Bon, n'empêche que cette augmentation de salaire de 183 euros avec le Ségur 2 qui va modifier, ça a quand même eu un impact et je pense que c'est quand même important de se dire qu'on ne gagne pas souvent mais que ça reste quand même une victoire. Voilà, parce que qui a été augmenté de près de 10% dans ce pays sur les dernières années? C'est ça qui nous est arrivé. Enfin, moi personnellement, j'étais à 1700 euros, quand vous prenez 180 euros, bon, mais c'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait. C'est sous la pression, je crois que c'est quand même important de se le rappeler pour aussi se redonner un peu le moral, parce que sinon on va tous se pendre. Mais ça montre que en cas aujourd'hui de réelle mobilisation collective de notre secteur, et pas seulement du secteur de la santé publique, on est tous les deux dans la santé publique, moi je ne l'ai pas dit, mais je suis éducatrice spécialisée au CHU à Toulouse, en cas de mobilisation un peu généralisée de notre secteur, il est évident que les victoires qu'on pourrait obtenir seraient importantes. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est comme c'est des bagarres sur les conditions de travail, comme on voit tous nos collègues qui se barrent, une mobilisation victorieuse n'aurait pas un effet matériel le lendemain. Voilà. Et ça c'est dur. Ça, c'est très dur. C'est très dur pour les collègues. Et c'est du coup là-dessus que nous, on doit intervenir, mais au-delà des murs de l'hôpital, au-delà du secteur de la santé, parce que pour le coup, ça concerne l'ensemble de la population. Bon, où on en est aujourd'hui, on est dans une situation, on va dire, à flux plus que tendue, avec une grande incertitude sur la rentrée, avec potentiellement une quatrième vague qui est en cours. Alors, je ne sais pas s'il faudrait parler de la poursuite de la quatrième vague ou alors d'une cinquième vague, qui, si elle se produit réellement, risque d'avoir des effets qui sont en fait décuplés par rapport à ce à quoi on a assisté, parce que les gens, les collègues ne se sacrifieront plus. Je disais, il y a un hôpital où 80% du personnel est en arrêt maladie. Ça, en quelques jours, en fait, ça peut exploser et se produire partout. Voilà. Ça peut se produire partout. On peut arriver dans une situation très critique. On a la question de la vaccination obligatoire qui est le sujet du moment, pour le dire. Donc, même position, hein, je suis évidemment pour la vaccination, évidemment pour qu'un maximum d'entre nous le soit. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand ceux qui prônent la vaccination sont ceux qui vous ont menti pendant des mois, qui continuent à vous mentir, qui détruisent l'hôpital, qui ne font rien à côté de leur politique autoritaire pour faire en sorte que cette épidémie, je dirais pas cesse, mais arrête de produire les dégâts catastrophiques qu'elle produit aujourd'hui, mais en fait ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça crée même l'effet inverse, c'est qu'on a autour de nous, et là ça dépasse les murs de l'hôpital, beaucoup aujourd'hui qui voient le fait de ne pas se faire vacciner comme un acte de résistance contre ce gouvernement. Et ça c'est terrible. C'est terrible parce que quand Franck interviendra sûrement, moi j'ai pas tous les bons chiffres, mais je vais travailler d'ici ce soir pour le meeting, mais quand vous voyez que 90% à peu près des gens qui sont hospitalisés, des cas graves, ne sont pas vaccinés. Certes, c'est pas la solution ultime, mais enfin quand même, ça peut aider un peu, quoi. Ça peut aider un peu, sauf que ben, c'est l'effet inverse qui est en train de se déclencher. Il faut savoir que... Alors, ils ont fait des aménagements sur l'obligation vaccinale. Vous n'allez pas être viré de suite. Vous pourrez poser vos congés, mais je vous jure... Au début, ça ne va pas être une mise à pied, c'est que vous pourrez être mis en congé. Mais il y a des gens, ça fait des années, qui ne peuvent pas poser leur congé. Donc en fait, je vous promets, moi j'ai des collègues, mais qui ont calculé leur truc, comme ça ils pourront avoir leur congé. Et après, ils se font vacciner pour revenir. On est dans une situation qui est complètement hallucinante. Et alors le taux de vaccination chez les personnels de santé, c'est pas vrai qu'il est bas. Léo, enfin, nous, par exemple, en hôpital, au moment des annonces de Macron, on en était à 76%. Après, effectivement, plus la catégorie socio-professionnelle est basse, moins les gens sont vaccinés. Mais c'est en lien avec ce que je disais avant. On s'est trop foutu de notre gueule, on nous a menti, pourquoi maintenant on vous croirait? Nous, c'est de ça qu'il faut qu'on parte pour pouvoir travailler. Mais les seuls aptes, les mieux à même à convaincre, ben, c'est nous, en fait. C'est nous qui avons travaillé avec du matos de merde. C'est nous qui avons, pour beaucoup, chopé le Covid en allant taffer. Et, alors, on n'a pas été testé. De toute façon, il n'y avait pas de test. Puis on nous expliquait que ça ne sert à rien. Mais moi, là, par exemple, on a eu CHSCT au CHU de Toulouse sur la question de la vaccination obligatoire, sur le beau diaporama qu'a projeté la direction. Ils ont été foutus de mettre sur la même page qu'on allait se faire lourder si jamais on ne se faisait pas vacciner. Et la ligne d'après, c'est en cas de... personnel, en cas de contamination au Covid asymptomatique, ben vous, et de personnel indispensable, en fait tout le monde est indispensable à l'hôpital, hein, il n'y a pas des gens qui sont là pour rien, ça n'existe pas, ben vous viendrez quand même travailler. Voilà, donc les directions hospitalières, c'est la même chose que le gouvernement, évidemment ne convaincront pas autour d'elles, et c'est à nous, là-dessus, de faire de la pédagogie et prendre nos responsabilités. Dernier mot, du coup, sur oui, l'hôpital, c'est la merde, et la situation, c'est la merde. C'est la situation, c'est la merde, parce qu'il y a cette mobilisation qui existe, qui est quand même importante, sur laquelle notre camp social, le mouvement ouvrier, enfin les forces progressistes, je peux le dire sous 10 formules différentes, n'ont aucune influence et n'ont pris aucune initiative. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que on n'est même pas dans la situation des gilets jaunes. Vraiment, je termine là-dessus. Où les syndicats et les, on va dire, beaucoup d'organisations politiques regardaient ça de loin, mais où ça, en vérité, ça avançait, ça se développait plutôt bien, les revendications progressaient, on n'en était plus juste à l'essence, quoi. Les revendications progressaient sur le plan social. Là, cette mobilisation-là, elle est sur la question du pass sanitaire, avec une dimension individualiste qui est très importante, et c'est pas juste que l'extrême droite s'est infiltrée. Ben, l'extrême droite est au cœur de cette mobilisation, et va capter une frange très importante de la population. Et nous, on est là sur le côté, et on regarde. Alors, il y a des camarades qui sont courageux, qui vont dans ces mobilisation pour intervenir, pour tracter, etc. Ben, je pense que c'est des très bonnes initiatives, mais c'est, on parle d'une autre ampleur dans ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire une initiative lancée, on va dire. Une initiative, une mobilisation, bien avant la mobilisation qui est prévue le 5 octobre. Parce que sinon, on court droit à la catastrophe, le discrédit des syndicats. Je veux dire, nous, on le voit, hein, les collègues qui disent « Mais qu'est-ce que vous foutez ?» Qu'est-ce que vous foutez? Ou toi, t'es là, genre, tout ça. Et je crois que là-dessus, bon, c'est un peu le débat qu'on aura. Je vends le débat de l'après-midi à 17h, la table ronde avec les autres organisations.